Lorenzo. Parle-moi de Lorenzo.
Oh, wow. Ok, Lorenzo, je l'appelle souvent mon one-man show. C'est mon fils. Il est 6 pieds 4, grand comme toi, hein? C'est vraiment ma source d'inspiration en tout. Et l'histoire commence avec lui, tout à fait, bien entendu, Lorenzo, parce que tu sais, quand Lorenzo est né, il avait toutes sortes d'allergies, y compris même problèmes de peau. Rien ne fonctionnait. Et bien sûr, étant biologiste médical de formation scientifique, on veut toujours ce qui est le plus scientifiquement prouvé possible. Donc, je suis allée vers les dermatologues, j'ai tout fait. Mais rien ne fonctionnait, ça asséchait plus sa peau.
Et ces problèmes donc de peau ont commencé,
Commencé ici à
ils
la
ont commencé
naissance,
ici
trois mois
à la
après.
naissance,
Ouais.
d'accord.
Au micro de siècle, invité Muriel Christelle Coucouy.
Les gens qui vont nous écouter vont comprendre pourquoi j'ai commencé cet entretien par Lorenzo. On a entendu le nom, mais on a aussi entendu là-dedans ta profession. Mais avant d'arriver à Lorenzo, avant d'arriver à ta profession, reculons dans le temps. Toi, tu n'es pas né au Québec.
Non, non, je ne suis pas née au Québec, je suis née au Bénin. J'ai grandi au Gabon, en Afrique centrale. Donc, je me dis souvent que je suis une citoyenne du monde. Et j'ai immigré au Québec vers l'âge de 18 ans et demi pour venir faire mon université. Et je suis allée à la ville de Trois-Rivières. Donc, j'ai fait mon bac. Donc, je suis arrivée vraiment jeune adulte, comme ils nous appellent. J'ai fait mon bac, ma maîtrise, toutes mes études au Québec. Puis,
Donc, une trifluvienne.
oui, trifluvienne d'âme, je l'avoue. J'aime beaucoup. Je pense que j'aime bien l'odeur de pâte à papier. C'est comme ça. J'aime beaucoup Trois-Rivières. Et je suis partie de Trois-Rivières pour Montréal, justement, enceinte de Lorenzo, parce que je ne trouvais pas un emploi dans mon domaine. J'ai fait un bac en biologie médicale. Et c'était complexe de trouver un emploi comme biologiste médical. Donc là, je suis venue dans la région de Montréal. Et je me suis présentée à l'hôpital Sainte-Justine et j'ai commencé comme assistante de recherche et j'ai continué ma maîtrise. Et puis j'ai eu entre-temps Lorenzo ici à Montréal. Donc je suis une immigrante, si on veut.
Tu es à Montréal depuis combien d'années à peu près? Une dizaine
Montréal,
d'années?
ça va faire 12, 14 ans.
14 ans.
14 ans que je suis à Montréal.
Quand tu pars du Gabon pour venir au Canada, pour venir au Québec, pour venir à Trois-Rivières, tu viens seul?
Oui, j'étais toute seule. C'était toute une aventure, mais j'avais une cousine par alliance qui était à Trois-Rivières et qui m'a aidée pour les premiers instants. Parce qu'en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis arrivée un 10 janvier. Je vais 2000, je ne vais jamais l'oublier. Il y avait une tempête de neige. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Mais je ne le regrette pas. Puis elle m'a aidée dans la première transition. Mais après, c'était vraiment le système. Tu te retrouves face à l'inconnu et il fallait s'adapter. Donc c'est là.
J'aime beaucoup le mot. Être aidé dans la première transition. Donc,
Oui.
il y a sûrement une deuxième. Première transition, c'est du Gabon à Trois-Rivières, la
Trois-Rivières.
neige. Comment t'adapter? C'est quoi la deuxième transition?
La deuxième transition, c'est m'aider au niveau des. Tu sais, quand on arrive, les premiers papiers, là, ouvrir les comptes, comprendre même les règles d'application, même quand tu as ton CAQ, c'est comme une histoire d'horreur. C'est vraiment un film d'horreur, même pour quelqu'un qui est éduqué. Donc, les us et coutumes, comment les mots utilisés, parce que moi, quand je suis arrivée, on me parlait, je ne comprenais rien. Donc, elle m'a dit, tends l'oreille, écoute un mot et repose la question. Et elle m'a amenée à la banque, donc cette deuxième transition, un appartement. Et après ça, mais là, elle m'a dit, au Québec, ben, si tu as des questions, je suis là, mais il faut que tu t'adaptes. Et puis, j'ai commencé comme ça.
J'ai pour habitude, quand je parle avec quelqu'un, interlocutrice ou interlocuteur, j'ai pour habitude de dire aux gens, ah, au fait, tu fais tel métier, mais comment est-ce que tu es arrivé là? Dans ton cas, ça n'a pas été compliqué parce que la biologie, c'est pas comme si tu es sorti de, tu as découvert ça comme ça par hasard. On va
Non.
dire que tu es né dedans.
Oui, c'est vrai, je suis née dedans, moi, parce que, effectivement, ma maman est biologiste naturelle, parce que c'est important pour elle de préciser. Moi, je suis biologiste médicale, elle est biologiste naturelle, elle était aussi professeure, parce qu'elle a pris sa retraite, donc elle enseignait enseignante en sciences biologiques. Donc, j'ai vraiment, effectivement, grandi là-dedans. Puis, au fur et à mesure, la passion était là. Et je crois que c'est pour ça que j'ai continué. Mais au départ, c'était même pas biologie médicale que je voulais faire médecine. Et j'ai changé d'avis parce que je me suis dit, concrètement, pour avoir un impact, je préfère être dans l'action. Et c'était trop complexe le système ici pour pouvoir après faire la transition médicale, mais j'ai trouvé la passion dans les analyses de laboratoire, mais aussi l'épidémiologie aussi, parce que j'ai pris l'organisation, la qualité des soins, épidémiologie clinique, et puis j'ai trouvé ma passion et j'ai continué. Donc, c'est vrai que je suis née dedans et j'ai continué quand même.
Tout à fait. Ouais. Tu viens de dire quelque chose, biologie naturelle.
Oui.
Quand les gens vont écouter cet entretien que nous avons, ils vont aller, comme on dit aujourd'hui, googler ton nom. Et s'ils tombent sur... tu ris déjà parce que j'imagine que tu comprends où je suis en train d'aller. Si ton, là, on n'a pas la télé. Nous, ce n'est pas la télé. C'est vraiment... Oui, vous devez voir le visage de Muriel Crissel. Elle n'arrête pas de rire. Et je vais faire une petite parenthèse. Mm-hmm. La première fois qu'on s'est vu, on s'est parlé, bonjour, machin. Tu as toujours ce visage... Toujours en train de sourire, toujours en train de rire. Bref, ça vient d'où?
Je dirais.
Est-ce que tu en as conscience? Parce que tu.
Non, c'est drôle. Depuis 16 ans, tout le monde me le dit. Je dis, ah oui, ben non, je n'ai pas vraiment conscience. Mais je crois que ça vient de mes deux parents. Et aussi des expériences. Il y a un truc que j'ai compris très tôt, c'est que par le sourire, on peut dépasser. En fait, l'obstacle devient minime. Il est là. Mais avec le sourire, l'attitude positive. Mais l'adversaire, même en te voyant, va se dire, oh, ok, est-ce qu'elle est normale celle-là? Mais avec le sourire, déjà, ça va baisser la pression. Et puis, bon, ça paraît que c'est ma nature. Alors. Oui, ça, on peut dire ça comme ça. Oui, je suis, tout à fait. Oui, mm-hmm. Oui.
Donc, je reviens à ce que je disais tantôt. C'est-à-dire que les gens vont aller googler et quand ils tombent sur ton. Ils vont voir différentes choses. Et il y a une quand on va sur ton profil LinkedIn. C'est un langage de, pour moi, c'est un langage de martien. Il y a ton nom, après il y a M, SC, CCRP, CDMP. Ok, on va faire une pause et tu vas un peu m'expliquer
okay.
Tout ça. MSC, ça c'est maîtrise science.
Oui, maîtrise en sciences biomédicales, option épidémiologie clinique. Donc, je suis épidémiologiste clinique de formation.
J'allais y venir parce que j'allais te parler de la pandémie. Donc, tu as des choses à dire là-dessus. Parlons de CCRP. C'est quoi?
CCRP, c'est Clinical Certified Research Professional. Parce que je me suis fait une promesse de ne jamais me plaindre ou laisser en fait le système m'imposer ce que je veux faire. Donc, quand je suis rentrée dans le système de la santé, comme assistant de recherche, j'ai remarqué que cette certification, mais ça te permet de pouvoir travailler en recherche clinique, d'être au contact des organisateurs de soins, des promoteurs, les pharmaciens, et aller comprendre qu'est-ce qui se passe quand on dit on va en recherche clinique. Donc, j'ai pris cette formation et puis ça m'a beaucoup aidé. Et CMDP, c'est Certified Data Manager. Donc, pour les projets, parce que bon, j'aime beaucoup la biostatistique, les statistiques, les mathématiques. Donc, c'est pour aller faire les modèles de régression linéaire pour comprendre entre une cause qu'on appréhende et la conséquence sur la santé, est-ce qu'on a une liaison? Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette formation, d'où le titre de CMDP.
Qui te sert aujourd'hui?
Sincèrement, le CMDP, non. Mais par contre, ça me sert à interpréter les données. Donc, parfois, quand on a des interprétations de données, moi, je peux prendre du recul, je sais à quel moment est-ce qu'on est vraiment en hypothèse extrême pour créer la panique, à quel moment, mais on est dans du concret. Donc, ça m'aide dans ma vie aujourd'hui. Non, ça ne me sert plus, je vais être honnête.
Quand tu me dis que tu es à Trois-Rivières, et tu parles de Trois-Rivières pour venir à Montréal parce qu'à Trois-Rivières, il n'y a pas d'emploi. Quand tu vas dans la biologie, oui, maman a fait de la biologie, donc tu l'as vu travailler. Dès le départ, tu es axé recherche?
Non. La recherche est venue en fait quand j'ai commencé par chercher les stages. Et j'ai réalisé que les stages qui étaient vraiment axés sur la recherche moléculaire, mais ce n'était pas accessible pour une étudiante et immigrante étrangère. C'était beaucoup plus réservé pour les étudiants locaux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée rencontrer un professeur, mon professeur à l'époque de biologie diagnostique, et elle m'a dit, tu sais, Muriel, tu peux monter un projet de recherche et fais ton stage avec moi. Ça te permet de pouvoir plus tard t'orienter. Si tu ne peux pas être technologue ou technologiste, mais tu vas pouvoir au moins continuer dans la filière, mais aider autrement dans l'organisation des soins. Et c'est de là vraiment que c'est parti. Vraiment, c'est, j'avoue. Et c'est le meilleur conseil qu'elle a pu me donner du coup, au lieu d'aller faire mon stage à l'extérieur parce que je ne trouvais pas, mais j'ai fait un stage avec elle à Trois-Rivières. Et c'était vrai pour aller voir c'est quoi l'impact en fait de la réinfection au VIH pour les patients qui ont été diagnostiqués à l'hépatite C. Donc c'est sur ça que j'ai fait ma thèse de fin de bac avec elle et puis c'est de là que c'est parti la recherche.
Est-ce que c'est un conseil, ce conseil qu'elle t'a donné, c'est un conseil que toi tu donnerais aujourd'hui à une jeune qui vient te poser des questions sur ce qu'elle souhaite faire?
Sincèrement, oui. Je lui dis, moi, le conseil que je donne même à tout le monde, même à mes frères, ne fermez pas vos horizons. Même si tu as un objectif, tu as un métier que tu veux faire, c'est parfait. Mais tu peux tracer le chemin en prenant des formations qui plus tard pourront te servir ou bien te permettre de bâtir ton CV et avoir accès à des réseaux parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et une personne qui peut te voir, mais tiens, toi, je t'ai vu, tu as cette compétence parce qu'il ne faut pas se le cacher, maintenant, on recherche par compétence. Donc, tu as cette compétence, même si c'est tout petit, c'est un atout. Ça peut te permettre de commencer au moins dans l'environnement pour plus tard après continuer dans la formation. Donc, c'est un conseil que je donne, je donnerai tout le temps.
Je peux encore rester sur ton parcours. C'est-à-dire que tu fais biologie, mais tu l'as dit tantôt, tu es épidémiologiste.
Oui.
Pourquoi tu n'as pas continué là-dedans?
Disons que...
Tu aimais moi.
Non, c'est pas ça. C'est que il y a 8 ans, ou il y a 5 ans vraiment, l'épidémiologie, c'était vraiment comme une science de fou. Les gens ne comprenaient pas l'impact. Je me suis même fait demander, mais qu'est-ce que tu allais faire pour aller dans cette étude? Pour ne pas rire. Et là, je dis, OK. Donc, il y avait très peu d'ouverture au niveau de la santé publique parce que les gens ne comprenaient pas. Mais j'ai quand même fait quelques expériences avec l'Agence de santé publique du Canada. Mais j'ai trouvé que c'était trop abstrait.
Est-ce que c'est parce qu'il y avait moins...
De besoin
ici, j'en parle ici au Québec, oui. Contrairement par exemple à des pays dont toi et moi nous sommes originaires, oui. Où on a l'Ebola, on a des choses comme ça. Est-ce que c'est à cause de ça?
C'est à cause de ça. C'est vraiment à cause de ça parce que la province juste à côté, l'Ontario par exemple, le besoin était là, ils travaillaient. Mais je ne voulais pas traverser la frontière pour aller en Ontario, donc je suis restée ici. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, si je ne peux pas l'utiliser pour travailler comme épidémiologiste clinique, mais la maîtrise que j'ai fait, la beauté, c'est que c'est épidémiologie clinique, mais avec organisation et qualité des soins. Donc, j'ai utilisé cette notion d'épidémiologie pour créer mon projet de recherche de maîtrise qui était justement de voir l'impact de l'organisation des soins, les délais sur la mortalité maternelle, mais au Sénégal. Donc, j'ai utilisé cette formation pour aller voir comment on peut aider pour voir la prévalence, pour voir chez nous, mais pourquoi est-ce qu'on a ces délais quand on voit que le taux de mortalité maternelle est, dans les pays occidentaux, c'est rien, mais chez nous, c'est un fléau. Donc, aller comprendre, mais pourquoi il y a ça? Et on voit vraiment dans l'épidémiologie, parce que souvent, les gens voient l'épidémiologie comme juste l'enquête, l'analyse des infections. Non, c'est vraiment aussi tout ce qui est autour, l'écosystème. Et ça m'a permis de pouvoir aider. C'était aux maternités de Thiès, au Sénégal, que j'ai pu mettre à profit, en fait, cette compétence. Mais après, je n'ai plus travaillé dedans. C'est vrai.
Comment on dit... Au Bénin, il y a deux langues.
Oui.
Le fond
et le goût.
Et le goût. Le Mina...
Le Mina, c'est entre le Togo et le Bénin.
C'est entre le Togo, c'est la langue qui fait un peu frontière.
Oui.
Allons donc avec le fond et le goût. Comment on dit joie?
Pourquoi cette question? Pour savoir pourquoi j'ai choisi Sim Carlo de Di. C'est fou, hein? Il n'y a pas un mot concret. C'est vraiment imagé. Donc, je dis je suis en joie. Je ne sais même plus comment le dire dans un mot pour que tu comprennes.
Donc, ne sachant pas comment le dire,
oui.
Et pour ne pas appeler ta structure joie et bonheur, tu as décidé de créer une entreprise et de l'appeler Simka, qui en hébreu veut dire...
Touche de joie.
Voilà, les gens comprennent pourquoi je te posais la question.
Touche de joie, oui.
Les gens ont compris. Tu n'es que... J'ai parlé de ça, tu n'es que rire. Tu n'es que sourire, tu n'es que joie. Ta vie, c'est vraiment un long fleuve tranquille, plein de joie.
Oh non! Non, non, mais j'essaye de le rendre. En fait, à la fin de la journée, il me dit que j'ai le contrôle sur mon émotion. Et j'ai ce contrôle-là, il n'y a rien de mieux que la joie. Parce que chaque fois qu'on exprime ça, ce sentiment de joie, mais on se crée des endorphines. Et ça aide énormément pour la gestion du stress. Donc, naturellement, moi, quand je regarde, je dis, oh, écoute, ce n'est pas la fin du monde. Mais ça ne veut pas dire que je vais me laisser faire par la circonstance. Non, au contraire. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que donner, et ça, c'est ma grand-mère qui le disait aussi, et ma maman l'a dit, quand tu donne la joie autour de toi ou à d'autres personnes, ou bien que tu accueilles avec le sourire, tu ne sais jamais ce que tu apportes à la personne parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé avant qu'elle ne te rencontre. Même si la personne de prime abord t'agresse, oui, tu vas le remettre à sa place parce que oui, on dit souvent au Québec, on dit j'ai un caractère fort, je te remets à ta place, mais je vais toujours te donner ta place d'humain parce que c'est ça, c'est une tolérance zéro. Et le drôle, c'est drôle, Simka, c'est même mon fils qui a émis l'idée. C'est fou, hein?
Ce fils dont on a parlé au début, Lorenzo, c'est ton fils, c'est lui qui est à la base, avant d'arriver à la genèse, avant d'arriver à être celui qui est l'origine de ta compagnie aujourd'hui, il est d'abord l'origine de, il est à l'origine de ta volonté de soigner ton fils.
Oui, tout à fait.
Si je peux le dire comme ça,
Oui,
c'est-à-dire que c'est
ouais.
lui. C'est s'il n'avait pas, on va le dire simplement, tu feras ce que tu l'as dit, s'il n'avait pas de problème de peau,
J'aurais pas pensé faire ça.
tout à fait.
C'est vrai, définitif.
Donc tu, Lorenzo a des problèmes de peau, comme tu l'as dit tantôt, toutes sortes de problèmes de peau. Et tu ne trouves dans les pharmacies québécoises, canadiennes, nord-américaines, tu ne trouves rien.
Rien. Même, je suis même allée avec des marques européennes hypoallergéniques, rien. Ça crée le symptôme, mais ça ne traîne pas le problème. Puis donc, ça asséchait la peau, ça revenait, c'était cyclique.
Est-ce que je peux te demander, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose dont j'imagine on peut parler, quel était le ou les problèmes de peau que lui qu'il avait?
Il avait l'eczéma, il avait la peau qui pelait et qui faisait des croûtes. Et en plus de ça, bon, on met ça dans la catégorie allergie. Donc, il faisait aussi des allergies à tout. Je dis là vraiment à tout. Donc, je me moquais même de lui. La seule chose à laquelle on ne lui a pas diagnostiqué une allergie, je pense que c'était la poussière. C'était le lait, protéines bovines, tout. Et là, ça fait un amalgame. Et là, ça touche la peau. Donc, c'était vraiment l'eczéma, la peau qui faisait comme des croûtes de galle. C'était vraiment, c'était infernal. Et ça grattait tout le temps.
Et pourtant, quand tu me dis ça, je dis, mais quand je me tourne là, il me semble que l'eczéma, j'en entends parler, ça se soigne à l'eczéma. Mais toi, tu ne trouves pas de produit à
Non. Qui est adapté à son type de peau.
son type de peau. Et là,
Tout
tu
à
te
fait.
dis, ok, comme on dit,
Ouais.
je passe à autre chose là. Je repars dans les racines.
Les racines. Mais en fait, pour le faire, en fait, ce que j'ai fait, comme toute personne normale, j'ai appelé ma maman et je me plaignais. Quand ça va mal, c'est toujours comme ça. Puis c'est elle qui me dit, oui, mais au lieu de te plaindre, pourquoi tu ne le prends pas? Et elle m'a cité trois ingrédients. Tu les mélanges et tu le lui passes. C'est ce que je vous faisais. C'est vraiment de là que c'est parti. Puis je me suis dit, ah, mais c'est vrai. Mais c'est beaucoup de travail. Oui, tu peux le faire, c'est pas compliqué. Et là, je dis, bon, j'étais fatiguée d'aller tout le temps. On va chez le dermatologue. On revient, rien ne fonctionne. Et puis j'ai dit, ok, bon, on va le faire. Et j'ai traîné pendant jusqu'à ce qu'il ait 3 ans. Hein. Puis finalement, quand j'ai mélangé les trois ingrédients qu'elle m'a dit, rien que ça, je n'ai même pas fait quelque chose d'extraordinaire. Et je le lui passais. Ça a pris 6 mois. J'ai vu toute la différence. Aujourd'hui, je m'amuse à dire, il a même une plus belle peau que la mienne. Et de là, j'ai compris l'importance, en fait. Ce n'est pas juste le produit, c'est les ingrédients adaptés pour le type de peau qui va à la fois traiter le problème, mais à long terme. Parce que les autres, c'était à court terme. Donc, les symptômes, ça calme. Mais ça va revenir, ça ne va pas traiter la profondeur, même si c'était quoi qui était à l'origine au niveau du derme. Donc, ces ingrédients mis ensemble, je me suis mise à m'amuser à le faire. Et puis, après, à des amis. Puis, c'est vraiment de là que tout est parti. C'est sûr que des trois ingrédients de maman, j'ai rajouté, moi, les recherches côté scientifique que j'ai découvertes dans ma formation, moi, pour aller maintenant le mettre au goût du 21e siècle pour respecter aussi les normes Santé Canada, mais surtout les huiles qu'on trouve accessibles ici pour essayer de faire un mariage, en fait, je prends les beurs végétaux de chez nous, puis on prend les huiles qui sont connues ici, qu'on met ensemble, et on voit le résultat sans ajout d'additifs synthétiques. Parce que c'est les synthétiques, justement, ça va donner un effet à coup terme. Ça calme les symptômes, mais ça ne traite pas le problème.
Les trois ingrédients, c'est comme la recette de Coca-Cola, là. On la divulgue.
On la divulgue pas, mais je peux. On la divulgue pas, on le garde secret, mais il est.
Mais non, c'est juste.
Dans un des ingrédients, il y a le beurre de karité, ça tout le monde le sait.
Donc, tu commences à t'occuper de ton fils, tu vois les résultats, tu fais des tests, du moins des tests, des amis te disent, tiens, ta crème, ça m'intéresse, tu y vas. Les amis. C'est pour soigner l'eczéma ou c'est juste pour
c'est juste avoir, pour avoir une bonne peau. C'est vraiment, il y en avait dedans, c'était une bonne peau. L'autre, c'était, mais peu importe les hydratants que je fais, j'ai toujours la peau qui est sèche. Donc aussi pour aider la sécheresse. Et puis l'autre, c'était vraiment des problèmes d'irritation de la peau. Donc c'est comme ça que tout est parti. Et il y a eu, les tests ont été faits pendant 3 ans quand même avant de dire, OK, là, on va vraiment faire quelque chose de concret parce que nul n'est à l'abri. Des conséquences adverses ou bien des plaintes. Donc, on s'est dit, OK, s'il faut le faire, il faut enregistrer, structurer, puis on est parti avec
ah
3.
Ah oui, mais c'est là où je veux m'arrêter.
Vous écoutez Au micro du siècle avec Muriel Christel Cocoy, PDG de Simca Biocosmétique.
Tu es une scientifique, tu es en laboratoire,
oui.
Tu fais tes recherches, mais là tu as un cas concret, ton fils a des problèmes. Tu trouves la solution et puis en même temps ça aide quelques amis. Tu aurais pu continuer ta vie tranquillement. Qu'est-ce qui fait que tu bascules? Pourquoi tu deviens entrepreneur?
Je vais le dire et ça va sortir comme on dit chez nous, ça comme ça va sortir. C'est parce que...
Ça sort comme ça va sortir.
C'est comme ça sort. C'est parce qu'un jour, je suis allée... me promener, j'en avais marre, c'est le bon mot, des listes, je dirais, longs comme un bras, d'ingrédients qu'on a dans les produits, quand la moitié de ces ingrédients sont toxiques ou ne font pas du bien à la peau. Et c'est vraiment ça, je me suis dit, écoute, si tu peux faire ça pour ton fils et tes amis, pourquoi ne pas aider l'autre? Et c'est vraiment ça qui a fait le changement de paradigme. Je dis, OK, je vais partir, je vais me lancer en entrepreneuriat, surtout ramener les gens à réaliser, je n'ai pas besoin d'avoir 10 000 ingrédients pour avoir mon résultat. Je peux à la fois avoir un résultat anti-âge, tout ce qu'on veut, mais juste avec maximum 4 ingrédients. Et c'est ça qui a fait que j'ai vraiment changement de paradigme. J'ai dit, OK, là, je vais être entrepreneur et je veux combattre justement la toxicité dans le domaine cosmétique naturel, beauté et industrie cosmétique.
Ça a donc donné en 2018 ta compagnie Simca, 2018-2022. Tu es une entrepreneur aujourd'hui à succès. Ça se passe bien pour toi, ton travail est reconnu. Toi-même en tant qu'entrepreneur, tu es reconnu. Je signale quand même que tu fais partie du top 100 entrepreneurs qui changent le monde. Tu as été dans le classement de 100 Black Women to Watch in Canada. Les récompenses, elles tombent, permettez-moi l'expression, mais elles tombent de manière régulière. Les produits Simca s'adressent à qui? Aux Noirs, aux Caucasiens ou à toutes les peaux?
Oh, j'adore cette question. C'est à toutes les peaux. Les produits Simca, c'est vraiment... Et là, ça me permet de rappeler, en fait, les produits de soins de la peau n'ont rien à voir avec la couleur, sauf peut-être le maquillage, ce qui est normal, parce qu'il faut voir la teinte de la peau quand on veut mettre le fond de teint, etc. Mais pour tout ce qui est hydratant, huile corporelle, savon, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est vraiment avec les besoins et le type de peau. Et Simca, c'est pour tout le monde. Même si, pour une raison que j'ignore, dans notre clientèle, 60% c'est caucasien. Je ne sais pas comment on a réussi à faire ce coup, mais on veut vraiment là maintenant amener à la communauté. C'est vraiment pour tout le monde, hommes, femmes et enfants en plus. Donc comme je dis, c'est un arrêt pour toute la famille.
Tu imagines bien, Christelle, que je ne peux pas te laisser aller là comme ça. Pourquoi tu fais 60% le caucasien? Et 40% d'autres. Quand je dis pourquoi tu fais, est-ce que à ce moment c'est quoi ton marketing, ton positionnement?
En fait, je pense que c'est c'est quelque, ça a quelque chose à voir avec le positionnement, parce que pour une raison que j'ignore, toutes les fois où je me dis, je me présente, je dis, je suis, c'est moi Simka, derrière Simka, dans ma communauté. Ah oui? Je dis, ok, je crois qu'il y a quelque chose peut-être dans le message qui ne touche pas la communauté.
Ça
je
n'est pas, pas associé.
C'est pas associé, en fait.
Personne noire.
Exact. Okay. Et là, j'essaye, honnêtement, on
c'est
travaille.
C'est une bonne chose, une mauvaise chose. Allez, ça sort comme ça sort.
Non, c'est une mauvaise chose, parce que, ou, une mauvaise chose en soi, parce que c'est vrai qu'on dit nul n'est prophète chez soi. Mm-hmm. Mais moi, une des choses aussi que je veux combattre aussi pour nous aider, c'est qu'on va beaucoup vers les produits industrialisés parce qu'on veut améliorer la couleur, on veut être plus clair, etc. Mais on a les bases nous-mêmes qui sont de chez nous, qu'on peut utiliser. Donc, ça, c'est pour ça que pour moi, c'est une mauvaise chose, parce que ma communauté a ce besoin. Mais je n'arrive pas dans... Ça ne s'associe pas à Simka. Donc, je ne sais vraiment pas. Et... Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que dans mes Caucasiens, 60% viennent de l'extérieur du Québec.
Oui, parce que ça aussi, c'est... Non, non, mais c'est aussi notre domaine. Alors, j'ai envie de dire, mais ça, je vais laisser ça aux spécialistes. J'ai envie de dire que c'est peut-être lié après au marketing. Ça,
oui, je, probablement.
Je laisse ça aux spécialistes, mais... C'est vrai que 2018, grosso modo 2020, donc tu as 4 ans d'existence,
oui.
Les deux premières années, toutes tes ventes, quasiment à 80% de ce que j'ai cru lire, viennent de l'extérieur du Québec.
Oui.
Rappelons quand même que Simka est une société québécoise.
C'est ça, oui.
Soit dit en passant.
Oui, ça je suis d'accord.
Ouais. Et ce n'est qu'après la COVID,
oui.
Où... Oui, on m'a dit après, la COVID fait que la donne change.
Ça a changé, oui.
Tu commences à vendre au Québec.
Ouais.
C'est très intéressant. C'est-à-dire que j'ai devant moi une femme noire, québécoise, néo-québécoise, comme je dis, qui crée un produit,
mm-hmm.
qui s'adapte à tout le monde du Québec.
Ouais.
Vend plus aux Caucasiens qu'aux personnes noires.
Oui.
Vend plus à l'extérieur du Québec.
Au Québec.
Au Québec.
Oui.
Mais tu devrais être heureuse de tout ça. Tu es la figure exportatrice du Canada.
C'est vrai. Mais en même temps, on se dit, comment ça se fait? Parce que maintenant, avec tout, je dirais, le positionnement, les reconnaissances, on en parle de plus en plus. Les personnes du Québec veulent un endroit pour aller acheter au Québec.
Est-ce qu'il t'était arrivé comme ça un jour de penser que tu pouvais être entrepreneur?
Non, honnêtement. Mais j'avais toujours quelque chose en tête. Je veux toujours aider quelques autrui. Je veux toujours aider les gens. Donc, il y avait toujours cette petite pensée-là. Et même quand je travaillais régulier... C'était impossible pour moi de rester dans les cadres. J'en fais toujours plus ou toujours de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Donc, je crois que cette fibre entrepreneuriale a toujours été là. Il ne faut pas non plus qu'on se le cache. Nos mamans, la plupart des temps, elles font toujours du commerce, même si c'est illicite, vendent des bijoux. Donc, il y a tout ça autour qui fait qu'on était conditionnés sans s'en rendre compte. Mais honnêtement, ça n'aurait pas été la première chose que je voudrais faire. Parce que bon, on sait que on va dire être entrepreneur, c'est la folie. Parce que c'est jamais pour les revenus. Mais non, j'aurais jamais pensé, honnêtement.
Justement, l'entrepreneuriat, c'est de la folie. Tu te retrouves être aujourd'hui à la tête d'une entreprise. Mais l'entrepreneur Muriel a trouvé les compétences où?
L'entrepreneur Muriel elle-même, c'est... J'ai pris une décision que je n'aurais jamais prise d'habitude. C'était un moment donné avec le HEC, l'Institut de l'entrepreneuriat du HEC Montréal.
Mm-hmm.
Ils ont une cohorte entreprise, donc il y a un incubateur. Et c'est quand l'appel est rentré, j'ai vu passer l'appel, je me suis dit l'appel de candidature. Je me suis dit, oh ben, j'ai rien à perdre. Parce que j'étais arrivée à un moment où je me suis dit, tant qu'à bien le faire, je veux pas juste créer une entreprise. Je veux créer une marque, laisser un héritage. Pour ça, il faut que tu tentes tout outil parce que tu ne l'as pas. Et c'est comme ça que j'ai envoyé ma candidature. Pour être honnête, je m'étais dit, bon, peut-être qu'ils ne me prendront pas parce que bon, on dit la cosmétique, il y en a, c'est compétitif. Mais non, j'ai été invitée pour venir passer, mettons, l'entrevue. Et après, j'ai été sélectionnée. Et c'est là où je suis allée vraiment prendre les acquis.
Donc, ça te permet de penser autrement en dehors de la boîte. Et il y a aussi beaucoup de défis parce qu'on te met beaucoup de pression et tu te dis, est-ce que je lâche ou je prends l'adversité pour mieux faire? Et moi, c'était vraiment toujours dans cette perspective. Et j'ai fini l'incubateur. Je me suis dit, bon, OK, maintenant, tu as la base, tu as le modèle. Mais ça ne suffit pas. Comment tu fais pour faire générer de l'argent, mais tout en donnant un impact aussi? Parce que c'est bien beau de faire de l'argent, mais il faut te donner en retour. Et j'ai décidé de continuer en 2019 dans l'accélérateur avec eux. J'ai été pris et puis vraiment, je n'ai pas arrêté. Et ça, ça a permis de revoir le modèle d'affaires justement. Et puis, j'ai réalisé, mais tout ce que je faisais, il faut le ramener sur une structure. Et ça t'amène à dire, OK, c'est quoi l'impact que je veux avoir autour de moi? Et je suis allée voir finalement, OK, bon, quand je dis, moi, la cause des femmes, je déteste l'injustice. J'aime aider la scolarisation. Je suis tout le temps en train d'aller aider des gens chez nous. Mais là, j'ai réalisé, mais ça a un nom. Donc, c'est l'impact social. Mais concrètement, comment on le fait? Donc, c'est là où je suis vraiment motivée. Et puis, bon, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs que je lis. Et j'avais toujours un motif. Bon, ils vont vous le dire. Hein, tout le monde va dire, Muriel, elle a une grande gueule. Mais oui, c'est ça. C'est je n'accepte jamais pour acquis. En fait, pour moi, on apprend tous les jours. Et quand c'est là où on me dit non, c'est ça que je veux faire, pour démontrer que ça l'est.
Je t'entends parler, je te regarde parler, et c'est qui tes mentors, c'est qui tes modèles?
Si tout le monde me pose cette question, c'est fou. Et je donne la réponse, personne ne me croit. Mon modèle, mon mentor, honnêtement, c'est ma mère et mon père. Parce que je repense à tout ce qu'ils nous ont donné. C'est ça, quand on était plus jeunes. Je regarde ma maman, je dis waouh. Et tu réalises, tu mets tout ensemble. Mais je lis aussi beaucoup. Je lis beaucoup et je suis aussi très croyante. Donc je ramène
tout. Tu lis quoi?
Je lis, mettons, tout ce qui est le roman de tout ce qui est écrit sur la vie de Maya Angelou, par exemple. Mm-hmm. J'écoute des podcasts des entrepreneurs comme Daniel Henkel. Toi aussi, j'écoute aussi Néo Québec. Donc je suis vraiment très curieuse de tout, sans pour autant me dire. Ma source d'inspiration, c'est là. Donc, et ma source d'inspiration, c'est vraiment, je vais le dire, c'est dans tout ce notre culture, donc Dieu, les croyances, l'importance de se dire un mental, ce que tu ne peux pas accepter, tu ne le fais pas à l'autre. C'est vraiment ça, mes sources d'inspiration. Et bien sûr, quand je rentre à la maison, je vois parfois, je parle avec Lorenzo, quand il était plus petit, quand il vient raconter ses histoires de « Oh, mais on m'a dit ici que je peux
il
pas être ici. »
Lorenzo
a 18 ans aujourd'hui. Mm-hmm. Ouais, c'est un
grand garçon.
Un grand garçon. Mm-hmm. Quand il vient te dire de l'école primaire, « Ah, mais moi, on m'a dit je ne peux pas être ici parce que je suis noire. » Et tu vois comment il te l'explique. Et là, je lui dis non, mais la personne qui te dit ça, ce n'est pas compliqué. Tu as deux options. Soit laisser qu'il te touche ou lui montrer qu'il a besoin d'être éduqué. Parce que ta connaissance n'a rien à voir avec ta couleur, mais tu lui réponds avec des mots. Et quand je le vois aller, parfois, il y a des moments quand on a des problèmes. Moi, je suis une...
Est-ce
impulsive.
Que c'est comme ça que tu réagissais, toi, quand tu avais ce type de... Parce que entre Trois-Rivières et aujourd'hui, je suis convaincue que
il y a eu...
Comment toi, tu réagissais?
Honnêtement,
comment même tu réagis encore?
Encore aujourd'hui,
comme entrepreneur?
Il y a une phrase que notre papa nous avait dit. On était allés en vacances en France. Et lui, c'est un monsieur justicier. Lui, fou, c'est... Et il y a quelqu'un qui lui a fait une remarque en lien avec sa couleur de peau. Et mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché de la personne. Il a pris le bras de la personne et il s'est frotté dessus. Il dit, voici ma réponse pour toi. Et après, il nous dit, je vais te donner une leçon à vie, Muriel. La personne qui vient te parler de ta peau, si jamais tu te laisses affecter, tu ne lui réponds pas par des mots et tu rentres dans l'agressivité, tu auras perdu ton combat. Parce que cette personne est ignorante, mais en même temps, elle est stupide. Mais tu es toi de l'éduquer et tu fais avec l'ironie. En lui ramenant ça. Et honnêtement, ça a été le meilleur conseil. Là où quelqu'un me disait, il y a quelqu'un qui me dit, j'en ai eu c'est pas une petite noire qui va nous apprendre quoi faire ici. Je dis, c'est tant mieux, la petite noire, elle est fière d'être ici parce qu'elle va faire une différence dans ta perception des couleurs. Soit dit en passant, je suis pas noire, je suis brune. Et là, tu vois la personne, c'est oh, ok. Et cette personne revient 2 semaines après pour s'excuser. Parce que moi, une fois que j'ai fini, je te dis, tu n'existes plus, c'est que tu n'existes plus. Et je t'amène et tu reviendras toi-même. Mais c'est pas facile. Il y a eu des situations où je me suis dit, j'ai explosé, mais en la fin de la journée, j'ai réalisé, j'ai été plus conne que la personne parce que je lui ai donné accès à quelque chose où on a dit, tu ne donnes jamais à l'adversaire, c'est accès à tes émotions. Et ce n'est pas facile. Ça, je dois l'avouer que bon, et même jusqu'à présent, on me le dit tout le temps. Mais bon.
Uriel, il y a tellement de femmes noires de Néo-Québécoises qui sont dans le domaine des cosmétiques.
Oui.
Avec cette particularité aujourd'hui, produits naturels, produits sains, produits naturels, produits sains. D'abord, c'est un super marché, ça, ça se voit, c'est super. La concurrence.
Je ferais l'autruche si je dis que la concurrence n'est pas rude. Honnêtement, la concurrence, waouh! Il y a des moments où on se dit, oh là 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 là, pas encore une nouvelle! Je vais reconnaître. Mais après, je me rappelle de, dans les formations de l'accélérateur, j'avais eu une coach à un moment donné qui m'a dit un jour, Muriel, la concurrence doit te ramener tout le temps vers ton pourquoi? Et ta mission, c'est ça qui va faire la différence. Et la concurrence doit t'aider à faire une chose. Et j'ai réalisé que c'est vrai, c'est de peaufiner le message. Au début, je disais, oui, c'est des produits naturels, c'est des produits sains. Mais finalement, naturel et sain, c'est vague. Mais moi, ce que je dis, c'est que oui, c'est naturel, oui, c'est bio, c'est éco-responsable. Mais chaque fois qu'on utilise ces produits, mais on a un impact. Donc, chaque personne qui l'utilise, tu deviens un héros, une héroïne dans la lutte contre les tout ce qui est toxique dans l'industrie de la beauté et cosmétique. Et tu ramènes pour dire, OK, quand moi je te vends un beurre corporel, mais tu permets à un enfant dans le nord du Bénin d'aller à l'école. Et ça te permet de changer. Mais sincèrement, en fin de la journée, quand on voit la concurrence, on se dit, oh Seigneur, pourquoi? Mais, il faut vivre avec, comme on dit. Et il y en a tout le temps.
Écoutez Au micro du siècle avec Muriel Christelle Cocoy, PDG de Simca Biocosmétique.
Tu fais partie de la délégation d'entrepreneurs qui va accompagner le Premier ministre du Canada au sommet du G20. Prenons le rétroviseur, là, toi et moi. Reculons là. Pas à Trois-Rivières, juste avant Trois-Rivières. Tu pars du Gabon, tu débarques ici.
Ouais.
La délégation des entrepreneurs canadiens. Qui vont accompagner le Premier ministre du Canada au sommet du G20.
Oui.
Il y a la petite fille, là, devant toi.
Oui. Oui. Honnêtement, j'avoue que j'ai réalisé, pour moi, c'était bon. Je ne voyais pas qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire dedans. Jusqu'à ce que je parlais avec une fille de 12 ans. Puis là, je dis, oh, ben là, je vais aller en Allemagne. Pourquoi? Je lui explique. Elle dit, oh, waouh. Puis là, je la regarde, je dis, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Elle me dit, mais vous êtes 47? Je dis, oui. Vous avez été sélectionné? Oui. Mais c'est que tu as une histoire. Tu vas nous représenter. Tu vas rapporter quelque chose. Je dis, ah, c'est vrai. Et puis, c'est vraiment là que j'ai réalisé, waouh, je regarde la petite fille qui est venue, la jeune fille qui est venue du Gabon. Je n'aurais même pas imaginé avoir cette opportunité. Parce que, on va se retrouver, oui, avec la délégation canadienne, mais c'est aussi les autres membres du G20. Donc, ça permet de nous faire des relations, nouer des liens et apprendre. Et j'avoue que, ouais, honnêtement, ouais, c'est tout un parcours. Maintenant, je réalise, ouais.
C'est quoi le secret?
Le secret, c'est l'audace. Sincèrement, je vais le dire. C'est vraiment l'audace. Et je dis tout le temps, essaye. Il y a deux options. C'est non ou oui. Mais le non va te permettre de revenir. Et si tu n'essayes pas, tu ne seras jamais. Et je suis tout le temps comme ça, c'est incroyable. Parce que quand j'ai envoyé ma candidature, je me suis dit, oh waouh, futur preneur, est-ce qu'ils vont dire l'âge? Parce que c'est 40 ans et moins, mais je suis à la limite. Est-ce que... Puis je me suis dit, mais je n'ai rien à perdre, c'est l'histoire qu'on veut. Parce que la thématique, c'est comment faire les affaires autrement en tenant compte des cibles de développement durable. Et lutter en même temps contre les changements climatiques, faire des, louer des liens et se réconcilier et la paix. Je dis, mais j'ai une histoire. Et là, j'ai rempli et j'ai pris l'histoire de d'où je viens, Simca, pourquoi je le fais, comment j'atteins justement les cibles de développement, même ici au Québec et à l'extérieur. Et j'ai envoyé ma candidature. Et honnêtement, j'ai été surprise quand j'ai eu la lettre. Je me suis dit, oh waouh, j'ai été pris, ok. Mais c'est vraiment l'audace. Toujours essayer. Et le secret que je dis à tout le monde, il faut toujours viser là où on ne pense pas vous voir. Parce que c'est là où vous aurez le plus d'impact. Et là, le pouvoir est silencieux. Ce n'est pas vraiment le bruit, c'est l'endroit où tu vas aller, le peu que tu peux avoir, mais c'est t'assurer qu'on n'oublie pas ton passage. Donc, c'est ça mon secret. Ouais.
Merci.
Quel plaisir.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Au micro de siècle, avec comme invité Muriel Christelle Koukoy, PDG de Simca Bio Cosmétique.
Mon nom est Cyril Ekwala.